Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj.
Et Galerie Drapé.
Aujourd'hui, 37e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Blaise Pascal et la question « Celui qui cherche Dieu l'a-t-il déjà trouvé ?» Il y a un paradoxe de la recherche et Platon l'a mise en évidence dès le commencement de la philosophie. Ce paradoxe peut s'énoncer de cette manière. Si je sais ce que je cherche, je n'ai pas à le chercher puisque je le sais déjà. Mais si je ne sais pas ce que je cherche, comment pourrais-je le chercher puisque je ne sais pas ce que c'est ? Le paradoxe ne se dénoue que si l'on distingue une connaissance imparfaite et une connaissance parfaite. Pour chercher quelque chose, il faut déjà connaître cette chose, même très imparfaitement, ou l'avoir déjà eue afin de la connaître parfaitement ou de l'avoir à nouveau. Aussi, je ne peux chercher et trouver mes clés que si je les ai déjà dans ma tête, me souvenant de la forme de leur trousseau. Sans cela, je pourrais sans cesse passer à côté sans jamais les reconnaître. De ce point de vue, qu'en est-il de Dieu ? Ceux qui disent qu'ils le cherchent encore, doivent-ils reconnaître qu'ils l'ont en vérité déjà trouvé ? Et ceux qui disent qu'ils l'ont trouvé, n'ont-ils pas à le chercher encore ? C'est ce que nous allons voir avec l'un des plus beaux, des plus émouvants passages des pensées, où le Christ dialogue avec Pascal.
Console-toi. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Je pensais à toi dans mon agonie. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Laisse-toi conduire à mes règles. Vois comme j'ai bien conduit la Vierge et les saints qui m'ont laissé agir en eux. Veux-tu qu'il me coûte toujours du sang de mon humanité, sans que tu donnes des larmes ? C'est mon affaire que ta conversion. Ne crains point, et prie avec confiance, comme pour moi. Je te suis présent par ma parole dans l'Écriture, par mon esprit dans l'Église et par les inspirations, par ma puissance dans les prêtres, par ma prière dans les fidèles. Les médecins ne te guériront pas, car tu mourras à la fin, mais c'est moi qui guéris et rends le corps immortel. Souffre les chaînes et la servitude corporelle. Je ne te délivre que de la spirituelle à présent. Je te suis plus ami que tel et tel, car j'ai fait pour toi plus qu'eux, et ils ne souffriraient pas ce que j'ai souffert de toi, et ne mourraient pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait, et comme je suis prêt à faire et fais dans mes élus et au Saint-Sacrement. Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur.
Je le perdrai donc, Seigneur, car je crois leur malice sur votre assurance.
Non. Car moi, par qui tu l'apprends, t'en peux guérir. Et ce que je te le dis est signe que je veux te guérir. À mesure que tu les expieras, tu les connaîtras. Et il te sera dit, vois les péchés qui te sont remis. Fais donc pénitence pour tes péchés cachés et pour la malice occulte de ceux que tu connais.
Seigneur, je vous donne tout. Souffre les chaînes et la servitude corporelle. Fabrice Hadjadj, quel est le contexte de ce texte ?
C'est un texte assez à part dans les fragments que nous avons retrouvés de Pascal et qui est un texte étrange, de dialogue. Est-ce que c'est une véritable retranscription d'une locution intérieure, d'une expérience vivante du Christ ? Est-ce que c'est un dialogue de fiction construit, mais qui essaye de dire une réalité profonde, de dialogue avec le Christ à partir de ce que nous en révèle l'Écriture et l'Église ? Donc le Christ parle à Pascal. Et manifestement, c'est un Pascal qui cherche encore. Alors, vous avez un double paradoxe ici par rapport à ce que vous mettiez en évidence dans votre introduction. Bien sûr qu'il est dit dans la Bible, hein, qui cherche trouve. Mais ça veut dire voilà, que celui qui cherche a toujours déjà d'une certaine façon trouvé. Après tout, on pourrait dire que le fait de chercher Dieu, et je dirais même, on pourrait dire plus loin, de ne pas croire en Dieu, est encore la preuve qu'on l'a déjà, toujours déjà trouvé, d'une certaine façon, même si on ne s'est pas rendu compte qu'on a déjà trouvé, parce que les autres animaux ne font pas cela, parce que finalement, même l'athéisme comme quelque chose d'actif, voilà, pour dire « ah non, non, je ne peux pas », voilà, c'est qu'on fuit devant quelque chose qui est forcément déjà là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, cette parole « console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé », et qui d'ailleurs est un écho de paroles qu'on trouve de manière littéralement, enfin quasiment les mêmes, notamment chez saint Bernard, hein, qui dit qu'on trouve, qu'on cherche pour le trouver, qu'on le trouve pour le chercher. Donc il y a ce double mouvement. Mais ce qui est très curieux, c'est cet autre paradoxe, c'est-à-dire que le Christ lui parle, donc il est là. Comment se fait-il qu'ils disent « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé ». Le fait même qu'il y a cette parole du Christ qui s'adresse à lui, montre bien qu'il l'a trouvé normalement. Bon. Et donc le texte se renverse encore, puisqu'il est en train de nous dire, voilà, même si le Christ était là devant moi à me dire « console-toi », je le chercherai encore. Hein, c'est-à-dire, parce qu'il est l'autre, parce qu'il est l'autre, et qu'on n'en a jamais fini avec l'autre. Pas un moment où on peut dire, on l'a compris, c'est fini. Il y a toujours un avenir dans la relation à un autre. Dès qu'on le conçoit comme cet autre, mystérieux, infini. Et puis parce qu'on n'est pas encore dans la vision, voilà, qu'on chemine même dans la foi. Quand Thomas met sa main dans le côté du Christ même, donc non seulement il voit le ressuscité, il le touche, il dit « mon Seigneur et mon Dieu », parce qu'il voit simplement c'est un homme miraculé, un homme mystérieux, mais il dit « mon Dieu », c'est-à-dire ce qu'il ne voit pas encore. Et donc il a encore à avancer, à le chercher et surtout à le suivre.
Fabrice Adjadj, est-ce qu'il n'y a pas un troisième paradoxe ? En tout cas, à la lecture, ça semble assez évident, puisque le Christ commence par dire « console-toi » et ensuite il enjoint Pascal, à qui il s'adresse, de donner des larmes.
Bien sûr. Alors, d'abord, il y a le sang, hein, le Christ qui, lui, verse son sang. Et cette parole extraordinaire, « je pensais à toi dans mon agonie, j'ai versé telle goutte de sang pour toi », ça c'est... C'est-à-dire que Dieu n'a pas versé son sang pour l'humanité de manière générale. Ouais, chaque goutte de sang est signée, elle porte un nom propre, enfin, d'une certaine façon. Et ça, c'est très important du point de vue théologique. Thomas d'Aquin dit que le Christ sur la croix a une connaissance à travers la vision béatifique qu'il garde à la fine pointe de son âme, mais qui ne déborde pas sur son corps, et même qui lui donne une puissance qui lui permet de retirer même toute consolation possible qu'aurait même un saint supplicié, quel qu'il soit. Il peut avoir la joie de mourir pour le Christ, le Christ peut obscurcir complètement parce qu'il a tout pouvoir sur ses facultés humaines, donc il peut être dans une détresse, et une détresse au-delà de tout ce que les hommes peuvent connaître. Et en même temps, en tant qu'homme même, par la vision béatifique, il a connaissance de tous les hommes, passés, présents, futurs. Et donc, il peut effectivement souffrir pour toi. Voilà. Dans son agonie, il pensait à moi. Et c'est pour ça que « je pensais à toi dans mon agonie », c'est vraiment le fait qu'il ait vraiment souffert pour moi, il est mort pour moi. C'est pas une vague généralisation à partir de cette mort. C'est réellement, hein, il me connaissait et il voulait me sauver. Et puis effectivement, cette parole, hein, veux-tu qu'il me coûte toujours du sang de mon humanité sans que tu donnes des larmes? Donc le Christ verse son sang et nous devons commencer, au moins, si nous n'avons pas la grâce particulière du martyr et d'avoir à résister jusqu'au sang, comme dit l'Épître aux Hébreux, nous devons au moins verser des larmes. Et là, on montre bien la différence, vous voyez, du rapport au Dieu des philosophes et le rapport au Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de nos pères. C'est que la science, et ça c'est une longue tradition, on en a déjà parlé ici, hein, s'accomplit dans les larmes. Le don de science, don de l'Esprit Saint, est associé au don des larmes. Et donc, la contemplation, le système optique, vous voyez, qui nous fait voir vraiment le monde, ça n'est pas la lentille du microscope ou du télescope ou de tous ces appareils qui viennent, ce sont vraiment les larmes. Parce que les larmes sont le lieu où, à la fois, on en a parlé la dernière fois, que le rapport à Dieu, c'est le rapport et de ma misère et de la miséricorde. Eh bien, les larmes sont effectivement à la jointure des deux. C'est-à-dire, je pleure de voir ma misère, mais en même temps, je ne vois cette misère que déjà sous la lumière de la miséricorde.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui. Celui qui cherche Dieu l'a-t-il déjà trouvé? La suite, Fabrice Adjadj, est étonnante. C'est mon affaire, dit Jésus, que ta conversion. Est-ce que la conversion, ce n'est pas justement notre rapport, comment nous plaçons par rapport à Dieu, comment nous lui laissons une place dans notre vie? Est-ce que ce n'est pas, premièrement, notre affaire?
Ben voilà, là vous seriez un pélagien, Galdric, bien sûr, vous savez très bien, vous faites ça d'ailleurs pour me tester, pour voir si on est bien à la fois dans l'orthodoxie de la foi et la ligne de Saint-Augustin. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit le Christ. Hein. Je vous ai choisi, je vous ai établi, je vous ai... l'homme, c'est le mystère, la conversion est un mystère. Et c'est un mystère dont l'initiative vient de Dieu, bien sûr. C'est pas moi qui me convertis par moi-même. D'abord, en tant que créature, je reçois tout de Dieu. Et en tant que pécheur, la première chose que j'ai pour Dieu, c'est de l'aversion. Hein, de la diversion, du divertissement, bien Pascal, hein, le mouvement inverse, hein, et de l'aversion, du dégoût pour Dieu. Et donc, il y a ce mouvement d'abord de grâce qui en moi ouvre un horizon, me fait voir ma misère. Et bien sûr, après, dans ma tâche, il y a le fait de consentir. Donc, c'est pour ça que le consentement, c'est juste cet acte de confiance dont parle par la suite. Voilà, c'est mon affaire que ta conversion. Il y a cette très belle phrase de Thomas d'Aquin qui dit de même que le soleil, par nature, éclaire. Dieu, par nature, convertit, sanctifie les hommes. Donc oui, c'est l'affaire de Dieu que nous convertir. Et tout est disposé dans la vie pour notre conversion. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on retrouve, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tout n'est qu'un chemin de rose. Au contraire, c'est qu'il y a aussi les épines, c'est qu'il y a justement la découverte de notre misère aussi, qui fait partie de ce mouvement de conversion. Et donc, ne pas avoir peur, parce que pour l'essentiel, je dispose de tout. Je dispose de tout ce qui est nécessaire. Et je dois juste prier avec confiance. Voilà.
Est-ce que cette idée que la grâce, justement, enfin, que la conversion vient de Dieu, permet justement de comprendre pourquoi ça commence par « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Que la grâce, d'une certaine manière, précède notre désir, que la grâce est ce qui fait...
Ça, c'est un grand thème pascalien et aussi augustinien. C'est-à-dire, par exemple, je n'arrive pas à prier, je ne trouve pas le temps de prier, mais Augustin dira « mais le désir de la prière est déjà prière ». Voilà. Et donc... Alors, c'est mon affaire que ta conversion, ça vaut pour tous les hommes. Ça veut dire que déjà, le mouvement de conversion est déjà du côté de Dieu, il est déjà lancé. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on pourrait dire, mais oui, mais je sens rien, je ne le vois pas, je cherche. Mais non, l'affirmation suivante, c'est de dire, attends, il y a ma parole dans l'Écriture, mon esprit dans l'Église, et il rajoute les inspirations, c'est-à-dire ce qui pourrait venir aussi de l'intérieur, voilà, des moments comme ça où on entrevoit des choses sans les comprendre. Ma puissance dans les prêtres, hein, les sacrements, et ma prière dans les fidèles. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est Dieu qui convertit, mais cette conversion passe à travers aussi l'Écriture, la communauté ecclésiale, les prêtres et les fidèles. Donc j'ai autour de moi tout cela. Et c'est comme si je me rendais aveugle à cette présence, voilà, dans laquelle, enfin, qui ne cesse de m'envelopper.
Fabrice Hadjadj, le fait que ce mouvement de recherche et de trouver Dieu soit d'une certaine manière infini et que la recherche permet de trouver et le fait de trouver appelle toujours davantage de recherche, est-ce que c'est propre à notre condition terrestre ou est-ce qu'on pourrait voir là aussi une dynamique du désir même une fois qu'on sera dans la vision?
Oui, à mon avis, je crois que Pascal en distinguant nettement le Dieu de la révélation et le Dieu des philosophes, nous fait aussi sortir de l'idée que l'horizon du ciel, c'est un horizon de simple compréhension. C'est-à-dire, ici-bas, je suis dans la foi, je ne vois pas encore Dieu, je ne suis pas sûr de son existence, peut-être de ce qu'il est, en lui-même, ça c'est certain, je peine, et puis là-bas, je serai dans la joie et j'aurai tout compris. Et de telle sorte que le rapport devient un rapport, on pourrait dire, d'abord intellectuel, vous voyez, de saisie de la vérité de la vie, de saisie de toute chose. Mais ça c'est le chemin, on pourrait dire, c'est la postulation de la philosophie, c'est-à-dire voir la vérité en face, et ça y est, je comprends tout, et j'ai saisi le sens, l'architecture même du monde, l'armature de l'être, etc. Alors que... On l'a bien vu, Pascal, ce qu'il met dans ce dialogue même, d'ailleurs, hein, c'est un dialogue d'amour, un dialogue de toi et moi. Il s'agit pas de... Le but, c'est pas simplement de connaître l'autre sans de comprendre ce qu'il est, c'est d'être avec lui. Et donc, être avec, c'est que l'autre reste toujours un mystère. L'enjeu n'est pas un enjeu de savoir ce qu'il est, mais d'être avec quelqu'un. Ce n'est pas de savoir quelque chose de quelqu'un, mais d'être avec lui. Et dès lors, le désir est sans cesse relancé. Parce que ça ne s'achève jamais dans une simple compréhension, et ça y est, je sais tout. Donc le ciel, c'est le moment où mon désir de connaissance de Dieu est rassasié. Oui, Dieu est parfaitement connu, il ne me manque de rien, mais il y a toujours de l'avenir dans cette relation à lui, et toujours, effectivement, de ce point de vue-là, du désir. Un désir qui n'est pas lié à un manque ou à une souffrance, on n'est plus en souffrance d'eux, mais à un surcroît, à une surabondance. Et c'est pour ça, être avec quelqu'un. Le mystère d'un visage, où il ne s'agit pas de comprendre quelque chose, mais de toujours être ouvert aux événements, à la découverte d'une nouvelle chose, par l'autre, avec l'autre.
Et Fabrice, cependant, on a l'impression que on sent, du point de vue du Christ ici, l'amour qu'il y a. Et pourtant, vis-à-vis de Pascal, enfin, du point de vue de Pascal, on a l'impression que la seule chose qui lui soit demandée, c'est non pas d'aimer le Christ, parce qu'il n'est jamais dit aime-moi. Enfin, il n'y a pas de, disons, il n'y a pas de commandement à l'amour. Le seul commandement qu'il y a, c'est suis mes règles. Comme si, en fait, le rapport qui était demandé par le Christ, c'est pas tant un rapport d'amour qu'un rapport d'obéissance.
Oui, alors il y a suivi mes règles, il y a fait donc pénitence hein, aussi, oui. Hein, ça c'est très important. Bon, il y a quand même, c'est une déclaration centralement, c'est une déclaration d'amour du Christ, effectivement. Je pense à cette parole qu'avait dit un chartreux à l'abbé Journet en lui disant ne cherchez pas à savoir si vous aimez Dieu, parce que là-dessus, c'est là qu'on doute, c'est là que... Qu'est-ce que c'est que notre amour? On n'est jamais certain. Mais ayez foi que Dieu vous aime. Il nous a aimés le premier. Croyez que Dieu vous aime et vous serez saints. Donc, c'est pas d'abord le côté narcissique où je suis toujours à prendre ma température avec mon petit thermomètre personnel, savoir si j'aime pas, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je... Non, la foi que Dieu m'aime. Et c'est pour ça qu'au cœur de cela, il est dit, je te suis plus ami que tel et tel. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit par la suite. Hein. J'ai fait pour toi plus qu'eux, et ils ne souffriraient pas. Il ne dit pas simplement ce que j'ai souffert pour toi, ou mort pour toi, ce que j'ai souffert de toi. Ça, on retrouvera cette marque pascalienne, enfin, ce passage chez Léon Blois, qu'on disait, celui qui m'aime, c'est celui qui est capable de souffrir, pas simplement pour moi, mais par moi. Ouais, souffrir par moi. Et c'est ce que dit Christ. Et il dit, j'ai souffert pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés. Il est mort pour des impies. Déjà, mourir pour un ami, c'est difficile, mais il est mort pour des impies, alors qu'ils étaient encore impies. Et il dit, ce que je fais pour mes élus. Les élus, ce sont justement ceux qui d'abord sont infidèles, cruels, mais il a souffert par eux et pour eux, et voilà que leur cœur s'est transformé parce qu'il a eu l'initiative justement de cette conversion. Donc vraiment, c'est vraiment un témoignage d'amour. Mais c'est vrai que du côté de cela, c'est qu'on doit reconnaître cette œuvre. Et alors, il y a ce passage bien sûr extraordinaire. Hein. Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur. C'est-à-dire le découragement total. Et alors, Pascal lui dit, alors je vais perdre cœur puisque tu le dis. Tu es Dieu, tu es la vérité. Et cette phrase extraordinaire, non, car par qui tu l'apprends, tu vas en guérir. Et il y a cette phrase, hein, à mesure que tu les expieras, tu les connaîtras. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment voir sa misère que dans la lumière de la miséricorde. Sinon, c'est ça le problème, on en a souvent parlé ici. Hein. Plus je fais l'expérience du bien, plus je connais le bien. Mais plus je fais l'expérience active du mal, plus je pêche, et moins je vois mon péché. C'est ça qui est curieux, ça. Le péché en lui-même est l'expérience qui nous fait, qui est, d'une certaine façon, est centrale. C'est une désexpérience. Parce que le pécheur va s'enorgueillir, parce que le pécheur invétéré va toujours se trouver des justifications, parce qu'il va dire, mais en fait, c'est comme ça que je devais faire, ou voilà, je vais bien faire. Il se ferme à toute possibilité de miséricorde. Il est bon, il est bien portant, il n'a pas besoin de médecin, il n'est pas... Donc, par définition, le moment où je vois ma misère, et c'est ça qui est important, le désespoir radical, c'est le désespoir qui s'ignore. Mais celui qui, tout d'un coup, se sent désespéré, c'est bien qu'il y a en lui la pression de quelque chose, d'une espérance plus haute, d'une lumière qui n'est pas là, mais à laquelle il aspire. Et donc, il doit faire à rebours de dire « Mais comment se fait-il que je vois ma misère ?» C'est bien qu'il y a quelque chose qui m'éclaire, donc il est déjà là. Voilà, le miséricordieux est déjà là. C'est déjà lui qui m'éclaire. Et c'est cette phrase « Vois les péchés qui te sont remis », c'est au moment où les péchés nous sont remis que nous les voyons. Et d'ailleurs, la grâce du sacrement de pénitence, où ce sacrement change simplement notre crainte du châtiment aussi, et donc ce qu'on appelle l'attrition, en vraie contrition, c'est-à-dire broiement du cœur pour le mal voilà, qui est contenu dans l'offense de nos péchés, bien souvent, c'est au moment même où on est dans la lumière de cette miséricorde qu'on se met à pleurer et qu'on voit. En fait, ce qu'on avait confessé, oui, voilà, à mi-voix, dans le secret, en le disant objectivement, et tout d'un coup, on voit effectivement que c'est terrible, qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Mais une fois que ça nous est remis.
Fabrice Sadjad, comment est-ce que, dans une société du spectacle, ce Dieu caché et ce Dieu, justement, qui veut nous révéler à nous-mêmes, peut-il encore être connu, peut-il être reconnu, alors que tout, justement, cherche à nous en détourner, à nous dissimuler ?
Oui, parce que on va le voir justement par la suite avec Rousseau, où la question du mal devient quelque chose de l'ordre de l'exhibition, etc. Mais là, il dit fais pénitence aussi pour tes péchés cachés. Donc non seulement il y a ce Dieu qui se cache chez Pascal, mais même mon propre péché m'est à moi-même caché. Il y a une malice occulte, hein, ce qu'on voit bien chez Augustin, qui confesse le mal qu'il connaît de lui, mais aussi celui qu'il ne connaît pas encore. Donc il y a ce mouvement dans la confession, il y a un mystère de nous-mêmes, et c'est pour ça que ça s'achève avec « Seigneur, je vous donne tout ». Et donc, oui, ça veut dire qu'il faut des lieux de retrait du spectacle. Voilà, va dans ta chambre, dans le secret, ferme la porte. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces îlots qui sont des monastères, que ce sont des, ce qu'on appelle parfois des coins prières dans la maison, se retirer du jeu, faire silence, se tenir en repos dans une chambre, comme disait Pascal, voilà, comme un point de départ et un point aussi de jouvence, en tout cas de renouvellement.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Blaise Pascal, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.